Vous écoutez un podcast audio d'Oasis Église Rive-Sud.
On est dans le livre de Jacques et Mathieu a fait des super vidéos avec Sam. Vous pouvez même l'écouter. Et on a eu super du bon temps dans les dernières semaines. C'est un de mes joies à chaque année de proposer à l'équipe qu'on fasse un livre ensemble, qu'on étudie un livre ensemble. Et ce matin, rapidement, je veux qu'on voit le livre de Jacques, chapitre 3. Il y a tellement des bonnes choses. On ne pourra pas tout le voir au complet parce qu'il y a trop de choses, mais on va prendre une des parties, je dirais, les plus importantes et les plus challengeant, si on peut dire ce mot en français, mais qui nous met au défi. Et si je peux mettre un titre à ce message ce matin, j'ai écrit ceci, « Maîtriser, comment maîtriser le plus grand fauteur de troubles? » All right? Et c'est qui le plus grand fauteur de troubles? Vous allez le découvrir. Si vous avez lu Jacques 3, vous savez déjà c'est qui le plus grand fauteur de troubles. Et comme vous savez, Jacques 1, Jacques 2, pasteur Désir en a parlé la semaine passée, ça nous challenge que la foi doit être mise en action, que notre foi est bien plus que des paroles. Que notre foi est bien plus que des mots, que la vraie foi se traduit en comportement, que la vraie foi se traduit en action, que la vraie foi se traduit en œuvre. Et c'est la même chose au chapitre 1, au chapitre 2 et au chapitre 3. Il nous challenge encore, il nous met au défi, comme on a dit, à de la maturité spirituelle. La maturité spirituelle et que même on peut devenir des hommes et des femmes adultes spirituellement, et une de ces choses-là, une des preuves d'une maturité spirituelle, c'est d'être capable de contrôler notre grande bouche, all right? De contrôler notre grande langue, parce que contrôler sa langue, selon Jacques, égale de la maturité spirituelle et égale de la foi en action, all right? Alors, on saute tout de suite dans Jacques 3. Si vous avez vos Bibles, faites-moi un petit pouce si vous avez vos Bibles. Criez, oui, j'ai ma Bible. Si vous êtes sur YouTube, oui, all right, super. Et dans Jacques 3, 1, ça dit ceci. Mes frères, ne soyez pas nombreux à assumer le ministère de l'enseignement dans l'Église. Wow! Pensez-y, nous qui enseignons les autres, nous serons jugés d'autant plus sévèrement. Si j'avais su avant de devenir pasteur, si on me l'avait dit avant de devenir pasteur, Jacques commence avec un avertissement. Vous savez ce qui se passe? Premièrement, Jacques n'écrit pas à une église. Vous savez, Jacques écrit à toute la communauté de chrétiens dispersés, mais ça a l'air que la langue est un problème dans l'Église parce que ça n'a pas vraiment changé depuis deux siècles. Pourquoi? Parce que même dans Jacques 1, il va dire soyez lents. Vous vous en rappelez, on en a parlé il y a deux semaines. Soyez lents à répondre. Soyez lents à parler. Soyez lents à vous mettre en colère. Et tout au long de Jacques, il parle de la langue. Le concept, c'est que des paroles sans action ne vaut rien. Et il est en train de dire, wow, il est en train de donner un avertissement. Probablement, il y avait beaucoup de gens qui voulaient enseigner dans ce temps-là. Et ça n'a pas changé aujourd'hui. On veut souvent être dans la position d'enseignant, de donner des instructions, de donner des ordres, parce qu'il y a un standing, il y a une reconnaissance avec l'idée d'être en avant peut-être et de dire aux autres ce qu'on pense selon la parole de Dieu. Mais savez-vous quoi? C'est précieux et c'est sérieux ce privilège-là. Et c'est bien plus que de la reconnaissance, c'est une redevabilité. C'est important ce qu'on fait. C'est pour ça que Jean va dire, hey, essayez pas tout le monde d'être des enseignants. Prenez ça au sérieux parce que c'est... On va être jugé plus sévèrement. Wow! On va être jugé. Évidemment, on est toujours sous le regard des gens quand on est à la vue, quand on prêche l'Évangile. Et pourquoi? Bien, un, parce qu'en tant qu'enseignant, quand on se met dans la position d'enseigner, il faut être sûr de dire la vérité. Il faut s'assurer de dire les vérités bibliques. Il faut s'assurer d'épurer notre cœur et de dire ce que la Bible dit et non ce que Joël veut dire. Est-ce que ça fait du sens? On veut, en tant qu'enseignant, partager la parole de Dieu et non la parole de Joël. Et la deuxième chose, chose qui n'est pas évidente en tant qu'enseignant. Il faut que tu fasses ce que tu dis. Et ce n'est pas évident. On essaie de purifier nos actions, purifier nos cœurs, parce que si on ne fait pas, on n'essaie pas de mettre nous-mêmes en action ce qu'on prêche, enseigner, c'est de l'hypocrisie. Enseigner un double standard. La chose la plus importante aussi, ou la chose très importante, de pourquoi c'est important de pas seulement vouloir tout le monde enseigner, c'est parce que les paroles ont du pouvoir. Ce qu'on dit a du pouvoir. Et on ne réalise pas à quel point nos paroles ont du pouvoir. Proverbe 18, 21 va dire ceci, « Les paroles peuvent être une source de vie ou de mort. » D'autres versions vont dire, la version qu'on connaît peut-être plus, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Wow! Qui aime parler doit en accepter les conséquences. Wow! Qui aime parler ici? Y en a-tu qui aiment parler? Merci pour ton honnêteté. Je vois ta main. On va prier pour toi à la fin. On aime, majoritairement, on aime parler. On parle. Et il faut en accepter les conséquences. Hey, est-ce que vous réalisez que la mort est au bout de notre langue, mais que la vie est au bout de notre langue aussi? Est-ce qu'on est capable de réaliser à quel point notre langue a du pouvoir, de la capacité de changer les choses, de bâtir ou de détruire? Et on veut être de ceux, surtout comme enseignants. Il y a tellement de fois que j'ai regretté une joke. Personne rit au fait que je regrette une joke, mais c'est pas grave. Et des fois, j'ai dit des choses trop vite même. Des fois, tu dis quelque chose qui te sort de la tête, tu le penses pas pleinement, mais te parler trop vite, j'ai tellement voulu. Et quand c'est sorti, tu voudrais les ramener en dedans, mais il est trop tard. Mais le péché de la langue, c'est pas non seulement pour les leaders ou les enseignants, le péché de la langue, c'est pour nous tous. Il y a un privilège d'enseigner, mais prendre soin de ce qu'on dit, de ce qui sort de notre bouche, et pour tout le monde. On continue, Jacques 3, 2 va dire, « Chacun de nous fait des fautes. » Bonne nouvelle, pas tout seul. « Sur bien des points et bien des manières, celui qui ne commettrait jamais de faute dans ses paroles sera un homme ou une femme parvenu à l'état adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. » Wow! La chose, c'est qu'on bronche de différentes manières. On a des fautes, on a tous des fautes. On a tous des faiblesses, on a tous des défauts, on a tous des péchés qu'on met sous la grâce de Dieu. On bronche toutes de différentes façons. Et Jacques va dire, la langue est probablement au top du rang de la façon dont on bronche. Et celui qui est capable de maîtriser sa langue, celui qui est capable de faire attention à ce qu'il dit égale de la grosse, grosse maturité spirituelle. Celui qui est capable de se faire dire la bonne chose, celui qui est capable de s'arrêter de dire des choses farfelues ou de dire de la médisance ou de critiquer, c'est de la grosse maturité spirituelle. C'est de la grosse foi en action. Et Jacques, tout le long du chapitre 3 ou presque, va nous enseigner, il va nous dire comment c'est important. Il y a tellement de pouvoir au bout de la langue qu'il faut s'assurer qu'elle soit dirigée par l'Esprit de Dieu. Est-ce que ça fait du sens? Et Jacques va nous donner 6 illustrations rapides qu'on va voir. L'une autant le fun ou intéressante que l'autre, mais Jacques va donner 6 illustrations de comment la langue du pouvoir, comment on peut l'utiliser pour le bien ou comment on peut l'utiliser pour le mal. Alors, j'ai divisé rapidement en 3 catégories pour ceux qui prennent des notes à la maison. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous commencer à nous suivre comme Mathieu Delabbé. Alors, Mathieu est arrivé à la réunion. Mais il chantait, il ne pouvait pas suivre et chanter en même temps. All right, alors t'es pardonné. La langue a la puissance. All right, premier point. All right, la langue a la puissance de diriger. Jacques, verset 3, chapitre 3, verset 3 à 5a va dire ceci. Nous mettons un mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent. Ainsi, nous dirigeons tout leur corps. Pensez encore aux bateaux, même s'il s'agit de navires de haut tonnage, et s'ils sont poussés par des vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Il en est de même avec la langue, même si elle n'est qu'un bien petit membre, elle a de grandes prétentions et de fait, elle peut se vanter d'avoir une influence considérable. Wow! La langue a du pouvoir, la langue a de l'influence. Et Jacques va dire, va utiliser deux petites choses pour dire comment une petite chose peut diriger de grandes choses. Il va utiliser le mort avec le cheval, il va utiliser le gouvernail avec les grands bateaux. Les grands bateaux de ce temps-là ne sont certainement pas les mêmes grands bateaux d'aujourd'hui. À haut tonnage, aujourd'hui, c'est encore pire, mais un petit gouvernail en lien avec la grosseur du bateau peut les diriger à travers des vents contraires. Et ce que Jacques essaie de nous dire, c'est que notre langue a le pouvoir de diriger notre vie. Notre langue a le pouvoir de diriger la vie des autres aussi, et c'est tellement important de réaliser ce qu'on dit, de prendre soin de ce qu'on dit, et qu'une langue soumise, une langue mature, est capable de diriger ses impulsions contre les pulsions contraires. Est-ce que ça fait du sens? Un mort peut diriger un cheval fougueux et l'emmener dans la direction qu'il veut. Et un gouvernail, malgré les pulsions, les vents contraires, peut emmener un des plus grands bateaux, malgré la résistance du vent, malgré les pulsions contraires, à aller dans une direction. Et Jacques va dire, quelqu'un qui a une langue mature, quelqu'un qui a une parole mature, va être capable de se faire dire des choses qui vont contraire de sa pulsion naturelle. Est-ce que ça fait du sens? Dans le sens que, au moment qu'on a des impulsions, notre langue veut la dire, cette impulsion-là. La langue veut s'exprimer. La colère, la douleur, la frustration, la joie, l'injustice. Mais une langue mature est capable d'aller contre nos impulsions réactionnelles et se faire dire non, c'est pas ça que je vais dire. Je vais diriger ma langue pour dire les choses qui vont bâtir. Amen, Steve? Amen. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous appelle à soumettre notre langue à une main plus puissante que la nôtre. Est-ce que ça fait du sens? Le mort est dirigé par une autre main. Le gouvernail du bateau est dirigé par une autre main. Et au moment qu'on soumet notre langue au Saint-Esprit, on n'aura pas à s'inquiéter de savoir si on va dire les bonnes ou les mauvaises choses ou dire les bonnes choses de la mauvaise façon. Est-ce que ça fait du sens? Des fois, on veut dire des bonnes choses, mais on le dit de la mauvaise façon, ça fait aussi mal. Et Dieu nous appelle à soumettre notre langue à quelque chose de plus puissant. Le mort dans notre bouche soumis au Saint-Esprit, le gouvernail de nos vies soumis au Saint-Esprit. Comme David, le roi David a eu cette prière et je prie que ça devienne notre prière pour chacun de nous. Psaume 141:3 dit ceci, que ma bouche, ô Éternel, reste sous ta surveillance. Veille aux portes de mes lèvres. Wow! Est-ce qu'on peut prier comme le roi David et dire, Seigneur, que ma bouche reste sous ta surveillance, que l'Esprit de Dieu surveille ma langue. Saint-Esprit, est-ce que j'ai dit, j'aurais pas dû dire ça. Saint-Esprit, est-ce que je devrais dire ça? L'idée de contrôler sa langue, c'est l'idée de tourner sa langue sept fois dans notre bouche avant de... Est-ce qu'il y en a qui s'est fait dire ça quand vous étiez jeune? Avant de parler, tourne ta langue sept fois dans ta bouche. Geneviève a dit oui. À la maison, je pense que c'est générationnel de ma génération. Avant de parler, là, tourne ta langue sept fois dans ta bouche. Hein, c'est biblique. Et je vous encourage ce matin de soumettre, parce que votre langue dirige vos enfants. La façon dont vous parlez à vos enfants, un oui, un non, une parole peut diriger leur vie jusque dans l'éternité, peut les éloigner de Dieu ou les rapprocher de Dieu. Nos bouches dirigent les conversations. Nos bouches, dirigent les résultats des conversations. Est-ce que vous réalisez le pouvoir qui est au sein de la bouche, qui est au, je ne sais pas comment dire, mais le pouvoir qui est au, c'est ça. Je vais le trouver après mon message. Mais La langue a tellement de pouvoir qu'elle contrôle les conversations. Vous savez, il dit, oh, moi, on pense qu'on ne peut pas contrôler les conversations. Pas dans un sens de contrôler méchamment ou d'un mauvais contrôle, mais d'en diriger les conversations pour que ça glorifie Jésus, de diriger les conversations pour lui rendre gloire. Proverbe 15:1 va dire, une réponse douce apaise la colère, mais une parole blessante excite l'irritation. Est-ce que vous voyez la différence? Une réponse douce apaise la colère, mais une parole blessante excite l'irritation. Nos paroles dirigent les conversations. Nos paroles ont tellement de puissance qu'ils peuvent apaiser les circonstances ou peuvent irriter les circonstances. Nos paroles peuvent bâtir ou ils peuvent détruire. Nos paroles ont beaucoup d'influence. La langue peut se vanter d'avoir beaucoup d'influence. Prions, frères et sœurs, qu'on dirige les gens, qu'on dirige nos vies dans la bonne direction. Deuxième chose, la langue a la puissance de détruire. Au verset 5, partie B, jusqu'à 8, ça dit ceci, « Ne suffit-il pas d'une petite étincelle pour incendier une vaste forêt? » La langue aussi est un feu. Elle est tout un monde de mal. Elle est là. Parmi les autres organes de notre corps, elle est capable de souiller notre être entier. Wow! Allumée au feu de l'enfer. Allumée au feu de l'enfer. Elle peut enflammer toute notre existence et mettre le monde en flammes. L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages. Quadrupèdes, oiseaux, reptiles, animaux, il en est effectivement dompté, mais personne n'arrive à dompter parfaitement sa langue. C'est un fléau impossible à maîtriser, un réservoir plein de venin mortel. T'en veux-tu? En v'là! Jacques n'a pas confiance en la langue. Jacques a peut-être été critiqué. Peut-être qu'il a vécu de mauvaises expériences. Mais Jacques, il va dire, une petite étincelle a la capacité de mettre au feu une grande forêt. Et on le voit, on ne vit pas en Californie, mais à tous les étés, on le voit comme en Californie. Et peut-être que vous vous rappelez ou pas, mais nos amis à Redding qu'on connaît, ont vécu un grand feu qui s'appelle le Shasta Fire, le Car Fire, dans la région de Shasta. Et ça a détruit plus d'un millier de maisons. Milliers de familles qui ont été mises à la rue. Savez-vous comment le feu a commencé? En parlant de petite étincelle. Il y a quelqu'un que son pneu a crevé et il a roulé sur le rim et le roulement du rim sur l'asphalte a créé des étincelles qui a mis le feu à la forêt et plus tard, c'est devenu le sixième plus gros feu que la Californie a jamais vécu. Pourquoi? À cause d'une étincelle, d'un pneu crevé sur de l'asphalte. C'est fou! Maintenant, on voyait au début des années 1900 comment une maison qui passait au feu, la ville au complet pouvait passer au feu. Une étincelle. Et la langue, frères et sœurs, ça dit que c'est pareil. Des petits mots, il y a tellement de puissance au bout de la langue qu'elle a la capacité de détruire énormément de choses. Un petit mot, une petite parole peut détruire plein de vies. J'ai écrit ceci, j'ai une parole irréfléchie peut détruire un couple ou une relation. Une parole méchante peut détruire un individu, un enfant. Un raconteur, une critique peut détruire une réputation. Une parole blessante peut ruiner la vie d'une personne, l'amener à la dépression, au découragement, dans une spirale destructive, au suicide. Les paroles potineuses ou la médisance répand comme un feu de broussailles et détruit l'honneur qu'on a pour les gens. Est-ce que vous réalisez qu'est-ce qui se passe quand la langue devient un feu, quand on parle trop, quand on dit des choses qu'on ne devrait pas dire, quand on critique, quand on blesse, quand on médit, quand on potine, quand on gossip en anglais, quand on dit des paroles irréfléchies sans même y penser, on est en train de créer un feu et quand le feu est parti, il est trop tard. Est-ce que vous réalisez? J'aimerais ça éteindre. Quand le feu est vraiment parti, quand c'est un petit feu, tu peux encore peut-être l'étouffer. Mais quand le feu est parti, tu ne peux pas le reprendre. Tu ne peux pas revenir en arrière. Et des fois, nos paroles sont comme ça. Des fois, la médisance est comme ça. La critique est comme ça. Le feu est parti. Et tu ne peux pas leur prendre les paroles. Tu pourrais demander pardon. Tant que tu veux, tu peux demander pardon à Dieu. Tu ne peux pas rattraper. Parce que la médisance, la parole de Dieu va dire, c'est comme un bonbon. On s'en délecte. Et les gens continuent. Parce qu'on parle trop aujourd'hui. Et Jacques adresse un sujet qui est encore là dans l'Église aujourd'hui. Et ça dit même allumée au feu de l'enfer, elle peut enflammer toute notre existence et mettre le monde en flamme. Est-ce que vous savez que même en tant que chrétien, il s'adresse à des chrétiens, notre langue peut être enflammée par l'enfer. Les choses qu'on dit, même si on aime Jésus de toute notre être, de tout notre cœur, de toutes nos pensées, des fois, notre langue est enflammée par l'enfer. Même Pierre, le disciple de Jésus, va lui dire, « Hey man, ce que tu es en train de dire, ça ne vient pas de Dieu, là. C'est en train de venir de Satan. » C'est Pierre, c'est le disciple de Jésus. Ça fait 3 ans qu'il marche avec, qu'il voit tout fort. C'est le disciple de Jésus. Et Pierre réussit à se faire, pas il réussit, mais il se fait avoir, si on peut dire, par Satan. Matthieu 16 va dire ceci, « Pierre l'a pris à part, il prend Jésus. » Jésus vient d'annoncer, pour vous mettre dans le contexte, d'annoncer qu'il va aller à Jérusalem, qu'il va se faire crucifier. Et Pierre le prend à part et se met à faire des reproches à Jésus, « Que Dieu t'en préserve, Seigneur, il ne faut absolument pas que cela s'arrive, de se faire crucifier. » Mais Jésus, se retournant, lui dit, « Va-t'en, arrière tentateur, par parole de Satan, tu me tends un piège. » Tu sais, quand tu as une relation proche avec quelqu'un depuis 3 ans, puis il te dit ça, ça casse la bulle. Ça casse la bulle d'amitié, tu sais. Arrière de moi, Satan, et il va dire ceci, « Tu veux me faire hésiter sur le chemin à prendre et me détourner de celui que Dieu a fixé pour moi, car tu vois les choses du point de vue des hommes et non de celui de Dieu. » Wow! On n'est jamais plus proche de Satan que lorsqu'on critique les autres. Parce que quand notre langue est allumée par Satan, on devient les accusateurs des frères. Et au moment, tu veux savoir quand on... Si on veut savoir, parce qu'on s'inclut tous là-dedans, si je veux savoir si je ne suis plus dans l'esprit par rapport à ce que je pense des autres, si je suis en train de les accuser et tu es en train de les critiquer. Je ne suis plus dans l'esprit. Parce que je vois selon mes yeux au lieu de voir selon la perspective de Dieu. Parce que si je vois selon les gens, selon la perspective de Dieu, mon langage il va changer. Mon langage il va être beaucoup plus positif. Mon langage va chercher à savoir ce que Dieu dit des situations et on va vouloir changer nos paroles. Ça dit que la langue doit être domptée, elle doit totalement être domptée pour voir comment Dieu voit. Elle doit totalement être domptée pour voir... Et ça dit que c'est difficile dompter. Jacques va dire, on a pourtant dompté les animaux, mais dompter sa langue, c'est difficile. Mais savez-vous quoi? Au moment qu'on dompte un animal, la fougue devient une force. La même chose pour notre langue. Au moment qu'on la dompte, notre langue ne devient pas un fusil, elle devient un pont. Elle devient quelque chose qui bâtit au lieu de quelque chose qui détruit. Elle devient quelque chose qui élève au lieu de quelque chose qui rabaisse. Et notre langue doit apprendre à être embrasée par le feu du Saint-Esprit. Est-ce que vous vous rappelez l'histoire de Acte 2? Pierre, dans Matthieu, juste avant que Jésus meure, va se faire accuser d'avoir la langue de Satan. Mais dans Acte 2, alors que la Pentecôte vient, alors que l'Esprit vient, alors que les langues viennent, qu'est-ce que Pierre va faire? Le premier message de la Nouvelle Alliance où 3000 personnes donnent leur vie à Jésus. Come on. Est-ce que vous réalisez, frère, comment il y a de puissance en arrière de la langue? Comment on peut utiliser notre langue et malheureusement que quand on a une perspective humaine, on peut être influencé beaucoup plus par Satan que par le royaume des cieux, mais que si on soumet notre langue à l'Esprit de Dieu, si on soumet notre langue, comment avoir le langage de Dieu, les fruits vont être bien différents. Au lieu d'emmener quelqu'un à être tenté de faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu, on va emmener, attirer des milliers de personnes à suivre Jésus. Jésus à donner leur vie à Dieu. Amen. C'est pour ça que le troisième point dit que la langue a la puissance de délecter. Dans Jacques 3, 9, 12, c'est tellement intéressant comme texte. Ça dit, tantôt, nous en servons pour chanter en parlant de la langue, les louanges du Seigneur notre Père, tantôt nous utilisons pour maudire les hommes. Les hommes créés pourtant à l'image de Dieu. Ainsi, de la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne devrait pas en être ainsi. Avez-vous jamais vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir de la même ouverture d'une source? Un figuier, mes frères et mes sœurs, peut-il porter des olives ou la vigne des figues? Pas plus qu'une source salée ne peut donner de l'eau douce. Wow! Et ça, c'est les deux dernières des six illustrations que Jacques va nous donner. Et même si c'est intéressant, c'est tellement contradictoire. Jacques va dire justement, avec tout ce que la langue a comme pouvoir, le bien et le mal, on devrait s'assurer que notre langue n'a pas un double discours. On devrait s'assurer que notre langue se tourne vers l'Éternel et que de la même bouche sorte pas la bénédiction et de la même bouche sorte pas la malédiction. Est-ce que ça fait du sens? Il est en train de dire, c'est contraire à la nature. Une bouche soumise au Saint-Esprit a pas, ça ne devrait pas y avoir lieu qu'elle maudit les autres. Une bouche qui se dit sauvée, transformée, renouvelée par l'intelligence de Dieu, qui se dit guérie de ses douleurs, ne devrait pas chanter. C'est quoi on a chanté un matin? Combien je t'aime et déteste cette personne. Oh, j'ai besoin. Tu comprends-tu? Ça ne peut pas arriver. Et malheureusement, ça nous arrive. Des fois, on loue Dieu un moment et on se retourne de bord et malheureusement, on critique. Et ça nous arrive tous, moi le premier. Ça nous arrive tous. Pourquoi? Parce que Jacques va dire, mature encore, contrôle ta langue, maîtrise le plus grand fauteur de troubles de cette planète. Et ça, c'est de la maturité spirituelle. C'est contre nature. Une source douce ne produit pas de la source salée. Un figuier ne produit pas d'olive. C'est contre nature. Pour mettre ça en version québécoise, un pommier ne produit pas de fraises. Même si ça pourrait être cute. Il me semble qu'un pommier qui donne des fraises, ça pourrait être cute. Un, ça ferait moins mal au dos cueillir des fraises. Il me semble qu'un beau pommier de fraises, ça serait magnifique. Même si l'idée est belle, c'est contre nature. Et Jacques va dire, c'est contre notre nature spirituelle d'un moment louer Dieu et l'autre moment maudire un être humain. Pas juste un chrétien, tout être humain créé à l'image de Dieu. Il faut s'assurer que nos paroles portent un fruit qui bénit l'âme, portent une source qui délecte l'être humain. Est-ce que vous me suivez un matin? Il faut s'assurer de vous là sur l'Internet. Les internets, il faut s'assurer ce matin que notre langue porte un fruit que les gens peuvent se délecter, que de notre langue découle une source qui anime les cœurs. Proverbe 12, 18 va dire, les paroles des bavards blessent comme des coups d'épée, tandis que le langage des sages est comme un baume qui guérit. J'ai eu une leçon un jour. Plusieurs leçons, mais un jour, j'ai eu une leçon. Il y avait une personne dans notre jeunesse, quand on était bien, bien plus jeune, et était plus vieux. Était plus vieux que nous, célibataire, un peu un comportement antisocial, si on peut dire. Et si vous m'aviez connu plus jeune, j'étais baveux. J'étais baveux. Anna a dit oui. À me marier. Mais je pouvais être. J'étais baveux, mais drôle. Et il n'y a rien de pire qu'être baveux puis drôle, hein, Steve? Mais je parle pas de toi, là. Je cherchais juste avoir de l'appui ici dans cette salle. Il n'y a pas d'arrière-pensée. Mais quand tu penses que tu es drôle, mais tu es baveux, les gens, tout le monde rit sauf la personne que tu baves. Et même si elle rit, elle va vraiment rire jaune pour pas avoir l'air que c'est pas drôle, mais à la fin, ces gens sont blessés. Et quelques années plus tard, j'ai eu une conversation avec cette personne-là, parce que quand tu vieillis, quand tu as plus de 17, 18, 19 ans, tu deviens un peu un adulte, tu as des réflexions. Et pour arriver au point que cette personne-là m'a dit que je l'avais blessée, et ça m'a attristé. Et j'ai pris un petit coup de maturité dans ma langue, à savoir que même si c'était drôle, puis je pensais que c'était drôle, mais drôle fait pas la job, parce que drôle blesse aussi, même si c'est fait sur l'humour. Et notre langue, est-ce qu'on peut s'assurer que notre langue soit un baume de guérison pour les gens? Comme j'ai dit, les paroles des bavards, des fois j'étais très bavard, blessent comme des coups d'épée, tandis que le langage des sages est comme un baume qui guérit. Écoutez bien Éphésiens 4, 29, et je finis très rapidement. Paul va dire « refuser de participer aux calomnies ». Ça veut dire « restez pas là pendant que les autres critiquent les autres ». Refuser de participer à ça. Va-t'en, sauve-toi. Parce que même si tu restes, tu es en train de l'écouter. Puis quand tu l'écoutes, ça change comment tu vois les gens. Ne laissez aucun propos blessant, aucun Internet, avez-vous compris? Ne laissez aucun, c'est même pas deux, trois, c'est aucun propos blessant ou inconvenant ou simplement inutile franchir le seuil de vos lèvres. On a dit que l'Esprit pouvait garder nos lèvres. Cherchez, ça veut dire qu'il y a un effort à faire. Cherchez les mots qui aident et qui encouragent, que chacune de vos paroles contribue au progrès spirituel des autres. Dites à propos, elles pourront être le moyen par lequel Dieu bénira ceux qui vous entendent. Wow! Est-ce que vous réalisez que Dieu veut bénir les gens à travers vos paroles? Les gens vont entendre vos paroles et Dieu va utiliser ces paroles-là pour les bénir. Wow! Dieu, oh, come on! Notre bouche et nos mots sont une planche de surf sur laquelle Dieu veut aller bénir les gens. Dieu veut surfer sur nos mots. Dieu veut surfer sur nos paroles pour bénir les gens. Frères et sœurs, qu'aucune parole, je sais que c'est un défi. C'est un défi pour nous tous. Et je finis avec ça. Le problème de la langue n'est pas nécessairement la langue. Le problème de la langue, c'est un problème de cœur. Matthieu 12, 34 va dire ceci. En effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. Est-ce qu'on le voit? En effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. La bouche va dire ce qui remplit nos cœurs. Quand on parle peur, notre cœur est rempli de peur. Quand on parle doute, notre cœur est rempli de doute. Quand on parle critique, probablement notre cœur est rempli de blessures. Quand on parle mépris, c'est parce que probablement notre cœur est rempli d'amertume. On peut reconnaître ce qui est au fond de l'être humain parce qu'il sent sa bouche. Si vous êtes avec moi, je connais mes amis, je sais ceux qui sont proches avec moi, je sais qu'ils sont capables de déterminer quand je parle dans la foi ou quand je parle dans l'incrédulité. Je sais que mes amis proches sont capables de déterminer quand je parle dans mes blessures ou je parle dans l'amour. Pourquoi? Parce que plus qu'on se tient avec quelqu'un, la bouche va dévoiler ce qui est au fond de notre cœur. Et la seule façon, et un cœur qui est blessé, va toujours dévoiler une langue qui est inconstante. Un jour, elle bénit, un jour, elle maudit. Un jour, elle encourage, un jour, elle décourage. Un jour, elle est dans la foi, un jour, elle pue dans la foi. Et frères et sœurs, ce matin, je veux juste finir tranquillement. Je ne sais pas si Isabelle, tu pourrais juste venir au piano. En vous faisant réaliser que Dieu veut toucher notre cœur ce matin. Notre langue a du pouvoir. Et savez-vous comment on peut mettre notre langue sous le pouvoir de Dieu? Lisez votre Bible et allez chaque jour à Jésus en lui disant, « Seigneur, utilise ma langue aujourd'hui. Utilise ma bouche. » Jésus, à tous les jours, il allait devant le trône de son papa, puis il dit, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Je veux juste faire ce que je te vois faire. » Et au moment qu'on donne cette humilité-là à Dieu, vous allez voir que notre bouche va être utilisée pour sa gloire. Notre bouche va donner des bénédictions. Notre bouche va être un endroit où Dieu veut utiliser pour bénir les gens. Et c'est tellement important, ça semble tellement peut-être ridicule comme sujet aujourd'hui, la langue, on a entendu prêcher, mais c'est un sujet qui est quotidien, quotidien. On a tellement d'opinions sur toutes les choses. On a tellement, encore plus aujourd'hui, on a, avec les réseaux sociaux, on a de quoi dire sur n'importe quoi. On a de quoi dire sur tout. On a une joke à faire passer sur tout. Savez-vous quoi? Dieu veut que notre bouche soit utilisée pour sa gloire. Et Jacques va dire, dans l'Église primitive, il y avait un problème de bouche. 2000 ans plus tard, ça n'a pas vraiment changé. Parce que la langue n'est pas facile à dompter. La langue n'est pas facile à contrôler. Mais bonne nouvelle, on a l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et si on soumet notre langue à la puissance du Saint-Esprit, si on soumet notre langue au feu qui veut embraser notre langue, come on! La prière, come on, du langage spirituel, embrase notre flamme, embrase notre langue pour brûler de mille feux pour la gloire de Dieu. Come on! Si on la donne au point qu'on ne laisse aucunement, que ça n'a pas à avoir lieu, que la même source donne des bénédictions que des malédictions, ça n'a pas, Jacques va dire, ça n'a pas lieu. C'est contre nature. C'est contre nature dans la vie du chrétien. Et on bronche tout de différentes façons, oui. Le péché de la langue est au top des choses qu'on doit développer, pas à faire, mais qu'on doit développer, de dompter notre langue comme maturité spirituelle. C'est un objectif. Vous allez être fiers de vous quand vous arrêtez des paroles entre vos dents. Vous allez être fiers de vous quand votre impulsion première veut dire quelque chose et vous faites oh, « Non, c'est pas nécessaire. » Éphésiens va dire dans une autre version qu'on dise peu de choses et si on dit de quoi, que ce soit encourageant, que ça bâtisse, que ça relève. Et ça, frères et sœurs, ce message nous parle tous aujourd'hui. Moi, comme enseignant, nous, comme enseignants, les gens qui enseignent, mais aussi chacun d'entre nous, parce qu'on a tous une bouche. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu nous parles ce matin, alors qu'on termine ce message. J'espère que vous êtes encore là et que vous écoutez ce matin parce que Dieu veut vous parler. Dieu veut utiliser votre bouche pour diriger les gens pour plus près de Dieu. Dieu veut utiliser votre bouche non pour détruire, mais pour guérir et bâtir. Dieu veut utiliser votre bouche quand quelque chose sort de vous, les gens soient délectés. Et que Dieu utilise chacune de nos paroles pour bénir autant le croyant que le non-croyant. Je le sais que quand on encourage, quand on voit le trésor dans lequel qui sont les gens, quand on a les yeux de Dieu, comme Jésus a dit, « Man, comme Jésus a dit à Pierre, t'es pas dans l'esprit présentement. » T'es sous l'influence de Satan présentement. Pourquoi? Parce que tu vois selon tes yeux, tu ne vois pas selon les yeux de Dieu. Et c'est une petite chose qui pourrait changer tout ce qui sort de notre bouche. Seigneur, apprends-nous à avoir la perspective des cieux. Parce que quand on a la perspective des yeux, tout devient possible. Quand on a la perspective des cieux, la joie remplit notre cœur. Quand on a la perspective des cieux, on voit ce que Dieu veut faire et non ce que l'ennemi veut faire. On peut changer, come on, les circonstances. Quand notre langue est soumise au Saint-Esprit, comme le chant qu'on chante, le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vient, tu changes l'atmosphère et notre langue peut changer les atmosphères. Il change les conversations, change l'esprit des conversations, change les sentiments dans les conversations, change les doutes, change la colère, l'animosité, adoucit. Come on! On est des porteurs de paix par notre langue. Et Seigneur, je te prie de nous toucher ce matin. Je prie que le message de Jacques soit percutant pour nos vies. Un message qui est encore vrai pour aujourd'hui. Encore pertinent pour chacun d'entre nous. Et combien de fois on bronche de différentes façons, mais Seigneur, aide-nous, rappelle-nous, viens et sois, surveille, Seigneur, surveille ma bouche. Aide-moi, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à maturer, Seigneur, avec notre langue, Seigneur. Et pas seulement d'arrêter de dire des choses mauvaises, mais de commencer à dire des choses bonnes. Commencer à relever les gens, bâtir les gens, propulser les gens, encourager les gens, guérir les gens, diriger les gens par ta gloire, pour ta gloire. Et Seigneur, purifie la source de notre cœur ce matin. Est-ce que vous pouvez le dire avec moi à la maison ici? Seigneur, purifie la source de mon cœur. Parce que si les paroles viennent de mon cœur, Seigneur, purifie mon cœur. Purifie mon cœur, purifie mes intentions, purifie mes yeux, la façon dont je vois les gens, purifie mon cœur des douleurs, des blessures qui minent la façon dont je parle, Seigneur Dieu. Purifie chacune de nos vies, Seigneur.
Vous venez d'écouter un podcast audio d'Oasis Église Rive-Sud. Vous pouvez retrouver les messages et suivre en direct nos dimanches sur notre chaîne YouTube. Également, nous suivre sur Facebook et Instagram. N'oubliez pas de consulter notre site internet à eglise-oasis.ca.